Salut les parents modernes et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Oh, qu'on les aime! Hein? D'ailleurs, j'avais envie de vous lever mon chapeau, vous lancer des fleurs. Bravo les parents d'être ici, d'écouter, de vous renseigner ici ou ailleurs, là, dans n'importe quel podcast qui sert à accompagner les parents. Ce que vous faites, c'est extraordinaire. Vos enfants sont ultra chanceux parce qu'il y a plein de parents qui font de leur mieux aussi, là, mais qui n'ont pas le temps, n'ont pas l'intérêt non plus d'essayer de mieux comprendre, d'essayer de mieux accompagner, d'essayer de changer un peu les façons de faire dans l'éducation. Et donc, que toi, tu show up, que toi, tu t'informes, que toi, tu viennes écouter mon podcast ou un autre podcast, que tu fasses des formations, que tu lis des livres, c'est vraiment un cadeau extraordinaire que tu fais à tes enfants. Et même s'ils ne le réaliseront jamais, moi, je veux te le dire, te féliciter. Et même si c'est jamais parfait, parce qu'il y a personne, la perfection, ça n'existe pas, là, mais moi, je connais toute la théorie, puis des fois, laissez-moi vous dire que je suis un cordonnier très mal chaussé, mais je vous remercie au nom de vos enfants et au nom des générations futures. Parlant des enfants, qui ici a un enfant qui n'a pas de bulle, qui n'a pas d'espace personnel? Là, je lève la main haut et fort depuis tantôt, je vais la redescendre, mais qui te grimpe dessus, tu sais, comme si t'étais un mur d'escalade, là, sans se poser la question si ça te fait de mal ou pas. Qui a un enfant qui fonce sur les amis tellement ils ont hâte de jouer avec eux, qui flatte la tête des plus petits au parc parce qu'ils les trouvent cute. Bref, qui a un enfant qui a pas de bulle? Je l'ai dit tantôt, je levais ma main instinctivement. Moi. Moi, j'ai un enfant qui n'a pas de bulle. Encore aujourd'hui, à 6 ans et demi, elle n'a pas de bulle. Elle n'a jamais eu de bulle. et moi, j'ai quand même une grosse bulle. Et à l'inverse, j'ai aussi, et peut-être que tu vas te reconnaître, mais plutôt reconnaître tes enfants, j'ai aussi une enfant avec une grosse bulle. Donc, ma deuxième, ma plus jeune, elle est super indépendante. Elle aime faire les choses. Elle aime jouer toute seule, tu sais. Elle aime être dans son imaginaire. Et au contraire, elle, on doit travailler fort sur l'acceptation de l'autre dans son jeu. Elle a besoin de temps pour se sentir confortable, pour se sentir en sécurité, puis elle aime pas ça quand on entre trop vite en contact. Peut-être que toi aussi, tu reconnais tes enfants. Dans les deux cas, c'est hyper difficile pour les enfants de, un, comprendre et de respecter les limites de l'autre en termes d'espace personnel ou en termes de temps, le temps que ça va prendre avant que l'autre accepte. Tu sais, des fois, ça prend du temps. Et de deux, de comprendre ses propres limites puis les affirmer aux autres sans crier, sans pousser, sans être dans l'impulsivité. Et tout ça, l'impulsivité, pousser, crier, c'est d'un sens ou de l'autre, qu'un enfant ait de bulle ou pas de bulle, c'est normal. Les enfants ont très peu de contrôle de leur impulsivité, et là, je crois que je t'apprends pas grand-chose en ce moment. Mais c'est suite à une question que j'ai reçue il y a quelques semaines pendant un de mes Q&A du lundi, j'ai pensé à en faire un sujet de podcast parce que je trouvais quand même que je pouvais pas répondre en une ou deux minutes. Fait que je me suis dit que quelle belle plateforme pour discuter de ça, de la bulle des enfants, pourquoi il y en a qui en ont, pourquoi il y en a qui en ont pas, puis surtout, en fait, comment les accompagner dans leur bulle, parce qu'essentiellement, pourquoi ils ont une bulle ou pas, ça, c'est une question qui est très, très, très individuelle, là. Ça fait partie du tempérament de l'enfant, de leur personnalité. Donc, il n'y a pas vraiment de raison pourquoi, mais en fait, surtout, comment enseigner aux enfants le concept de bulle, le concept d'espace personnel dans les deux sens. Alors, première chose que j'ai envie de te dire, et qui est la plus importante, c'est que les enfants, ils ont besoin de notre aide. Que ce soit l'enfant qui a un gros espace personnel, donc lui qui a besoin d'affirmer ses limites, ou que ce soit celui qui a pas de bulle. Parce que les enfants ont plusieurs limites cognitives, vous commencez à les connaître, j'en parle souvent, puis je suis tellement contente que vous commencez à les connaître, justement, ça vous aide vraiment à mieux comprendre les enfants. Mais mettons, pour quelqu'un qui serait pas aussi de besoin, si tu as besoin que je te rafraîchisse la mémoire, ben les enfants, on se rappelle qu'ils ne comprennent pas le point de vue de l'autre avant un certain âge, donc avant 7-8 ans, et même encore à 7-8 ans, souvent, ça va être l'égocentrisme qui va gagner. Ils sont quand même très encore centrés sur leurs propres besoins, ce même jusqu'à, même à l'adolescence, sont très centrés sur eux, sur leur vision, sur leur propre vérité. Donc, mais particulièrement les jeunes enfants en bas de 7 ans, c'est très, 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 c'est quasiment impossible pour eux de sortir de cet égocentrisme-là, puis de comprendre le point de vue de l'autre en prévention, en raisonnement de « Ah, si je fais cette action-là, ça va avoir telle conséquence sur mon ami. Ils ne peuvent pas aller là. » Ils peuvent le faire par après, quand on fait un retour avec eux. « Ah, tu sais, ton ami, ça y a fait de la peine. » Il est capable de comprendre puis se mettre à la place une fois que les émotions ne sont plus impliquées. Mais quand il y a une situation puis que ton enfant ressent un besoin ou une envie pressante ou, ben pas de pipi, mais une envie pressante de faire quelque chose, de prendre un jouet, de monter dans la glissade, de dépasser l'ami pour glisser en premier, il va pas penser à « Ah, si je fais ça, ça va... Si je pousse l'ami pour glisser dans la glissade en premier, l'autre, ça risque de le blesser, ça va y faire de la peine, c'est pas juste, on peut pas faire ça, c'est mal. » Non, il ne va pas penser à ça. Puis ça, les enfants sont tous pareils. C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcer dans le développement. Parce que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une limite cognitive. Puis tout ce qui est limite cognitive, peu importe qu'on soit un parent super autoritaire, qu'on soit un parent super permissif ou qu'on soit à l'équilibre entre les deux. Donc un parent qui met des limites fermes, qui fait des grosses décisions pour s'assurer du bien-être et du bon développement de ses enfants, mais qui arrive à le faire avec chaleur et amour, ça va rien changer au niveau des limites cognitives. Les limites cognitives vont toujours exister, vont toujours être là, puis ça va se faire en temps et lieu au rythme du développement de tes enfants. Avant de l'oublier, j'interromps quelques secondes l'épisode d'aujourd'hui pour vous informer qu'à la toute fin du podcast, donc rendez-vous jusqu'à la fin parce que j'ai une vraiment belle surprise pour vous. Autre chose qu'il faut comprendre dans l'affaire de bulles puis pas de bulles, c'est que souvent, ben, les adultes, on va laisser très longtemps nos enfants nous envahir notre bulle, nous grimper dessus. Tu sais, on va être assis par terre, là, puis là, ils vont commencer à nous grimper dessus, ils vont nous agripper les cheveux quand ils sont tout petits, là, quand ils ont 18 mois, 1 an, 2 ans. Puis, on les laisse nous mettre les mains sales dans le visage, puis on dit rien. Parce que c'est cute, parce que c'est des enfants, parce qu'ils sont pas lourds, parce qu'ils sont pas graves. Puis c'est correct de faire, là, je suis pas en train de dire que c'est vraiment grave, mais sauf que c'est sûr que on n'est pas en train non plus d'expliquer à notre enfant, regarde, j'ai une bulle, j'ai des limites, et voici que... quelles sont mes limites, tu sais, dans le sens où c'est correct de dire à notre enfant, « Hey là, tu me grimpes dessus, ça me fait mal, regarde, je vais t'asseoir à côté de moi pour écouter l'histoire. » Tu sais, quand t'as un enfant qui wiggle sur toi pendant que t'es en train d'essayer de lire une histoire, puis ça te fait mal, puis tu dis rien, t'as le droit de dire quelque chose, même si t'es un enfant, t'as le droit de dire, « Oups, là, ça me fait mal, je vais te mettre ici à côté, puis tu sais, je vais mettre ma main sur ton épaule, on va quand même avoir un super beau moment, t'es pas obligé d'être, là, tu sais, t'es un petit peu trop dans ma bulle, ça me fait mal. » Ensuite, les enfants qui ont des bulles ou pas de bulles ont besoin de notre aide parce que lui qui a besoin d'un plus grand espace, lui qui a une grosse bulle, ben lui, il faut qu'il apprenne à exprimer ses limites. Mais quand ils sont petits, évidemment, ils vont le faire de façon très impulsive, la seule façon qu'ils connaissent, avec des cris, avec des coups, c'est normal, en poussant, en criant. Et celui qui, à l'inverse, a pas de bulle, ben lui, il a besoin d'apprendre à observer les autres. Il a besoin d'essayer de voir un peu le non-verbal. Puis il a surtout besoin d'apprendre à entrer en relation avec les autres, avec un petit peu plus de retenue, de façon un petit peu plus acceptable, peut-être en demandant « est-ce que tu veux jouer avec moi » ou en tendant un jouet, mais en étant moins envahissant, ok? C'est bien beau tout ça, là, mais comment on fait? C'est ce que je te présente à l'instant. Donc, première étape, c'est la prévention suivie des enseignements. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça va pas se faire naturellement, cet apprentissage-là, ni par... Le modeling est super important, puis je vais en reparler plus tard, mais l'enfant va pas apprendre en te regardant puis en t'imitant, nécessairement. Donc, c'est important pour toi d'agir, de faire de la prévention. Donc, c'est important de regarder, mettons, t'arrives à quelque part, là, je sais pas, moi, t'es au parc, ok, il y a un corps de sable, il y a plein d'affaires. Essaie de prendre un moment pour observer les enfants autour de toi, observer les dynamiques, pour palper c'est quoi les énergies, c'est quoi les tempéraments que t'observes, puis c'est quoi la manière qu'ils ont d'entrer en relation. Bon, on s'entend, des fois, ça peut se passer vite. Si toi, mettons, tu sais que ton enfant, là, il a une grosse bulle, puis ton enfant, je sais pas, moi, il est dans le carré de sable, ben, reste près de lui, parce que ça se peut très bien qu'il y ait un enfant qui arrive proche, qui court à côté de lui, que ça le dérange, qui lui vole un jouet, ça le dérange, qui vienne juste jouer avec lui dans son château parce que ça l'intrigue, puis que ça le dérange. Donc, si tu sais que ton enfant, ça le dérange, reste près de lui. Sois impliqué, reste surtout très calme et reste régulé pour aider ton enfant et pour prévenir. T'sais, faut pas que tu sentes toi non plus que l'autre enfant qui essaie de rentrer dans la bulle, il fait quelque chose de mal, puis que c'est une attaque, puis que tu sois en mode comme « Maman lion, je vais protéger mon enfant! » Ton enfant, il a une grosse bulle, certes, mais il ne peut pas l'exprimer par lui-même. Donc, il faut que tu agisses comme sa bulle de protection. Tu deviens la pancarte peinture fraîche sur un banc fraîchement peint. Parce que comment tu veux qu'on sache qu'un banc est fraîchement peint si c'est pas écrit? C'est sûr, tu vas t'asseoir dessus, puis tu vas ensuite constater, chut, il était, c'est de la peinture fraîche, mes vêtements sont tout tachés, il n'y a rien à faire. Mais c'est la même chose pour ton enfant qui a une grosse bulle. Si il y a un enfant qui arrive en mode je veux jouer avec toi, moi j'en ai pas de bulle, ben il peut pas savoir que ton enfant qui est assis dans le carré de sable, que lui il a une grosse bulle, qu'il a besoin de temps, qu'il a besoin d'espace. Puis si l'autre arrive en étant un peu trop intense, ben le pauvre il risque de recevoir un coup, de recevoir une pelle de sable ou recevoir un vomi de cris sans aucun avertissement, il va pas comprendre. Et l'inverse est aussi vrai pour celui qui a pas de bulle, hein, celui qui est vraiment intense, qui est vraiment envahissant, mais lui il sait pas qu'il a pas de bulle, puis il sait pas que les autres ils en ont une. Donc on veut aussi les protéger des potentiels coups ou des potentiels cris parce qu'il arrive trop vite, parce qu'il arrive trop proche, parce qu'il arrive trop intense. Donc, on veut pouvoir, lui, le ralentir, lui montrer à observer, puis lui enseigner surtout à entrer en contact avec les autres sans leur sauter dessus, sans les envahir, sans les prendre dans ses bras, tu sais. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'avec, par exemple, Jérémy qui est dans le carré de sable, qui lui a une grosse bulle, on veut rester à côté de lui et prévenir que s'il y a un enfant qui arrive, qui est envahissant, qui arrive trop vite, trop fort, trop intense, on est là pour être la bulle de protection. Et ça, on fait ça comment? On fait ça en premièrement mettant notre main, comme faire un stop avec notre main devant l'enfant qui arrive, juste pour qu'il y ait une barrière physique. Pas de façon passive-agressive ou en étant chargé émotionnellement, je le répète, il faut être calmé et régulé, juste en mode comme « Oups! OK, là, je suis la bulle. Mon enfant, il a besoin d'espace, il a besoin de sa bulle. Tu voulais venir lui dire bonjour? Tu voulais venir jouer avec lui? Attends un petit peu. Jérémy, regarde le garçon, il aimerait ça venir jouer avec toi ou te dire bonjour. Est-ce que tu as envie de lui dire bonjour? » Jérémy dit non. Ah! Ben là, on peut lui dire « OK, peut-être plus tard. Jérémy, il n'a pas le goût de jouer avec toi pour tout de suite. Peut-être tantôt. Mais regarde, si tu veux, tu peux venir jouer ici à côté de moi. » Puis avec le temps, ou pas, peut-être tu peux juste le laisser aller. Mais tu sais, si tu as envie, si tu trouves que bon, ça ferait une belle amitié, je sais pas. Ou tu sais, si tu veux justement apprendre à ton enfant à s'habituer tranquillement pas vite à la présence des autres, tu peux lui dire « OK, viens jouer ici à côté de moi, on peut te prêter une pelle. » Et avec le temps, peut-être que ton enfant va s'habituer à la présence de l'autre enfant, peut-être qu'il va voir que toi aussi t'interagis, qu'il n'est pas dangereux, qu'il n'est pas mal intentionné, puis il y a peut-être une petite zone de confiance qui va s'installer ici. Donc l'idée, c'est pas de renforcer l'isolement de l'enfant, on veut qu'il puisse s'ouvrir aux autres, mais dans le respect de son rythme. Et c'est exactement ce que tu fais en acceptant que l'autre soit pas trop loin dans son champ de vision. Donc un petit pas à la fois, puis si on voit une ouverture, on peut encourager un jeu coopératif, mais sans jamais forcer. Puis si jamais t'es pas à l'aise puis t'as pas envie que l'enfant vienne jouer à côté de toi parce que toi aussi t'as une grosse bulle, ben c'est aussi vraiment correct. Juste le fait d'être dans un endroit, d'être dans un parc, d'être dans un endroit public où est-ce qu'il y a d'autres enfants, juste le fait d'observer d'autres enfants autour sans nécessairement accepter des enfants dans votre bulle, c'est aussi un autre petit pas, je voulais juste le rappeler. Et si jamais t'étais pas présente à côté de Jérémy, puis que là, il y a un enfant qui est arrivé, puis que Jérémy voulait pas, puis il a garoché une poignée de sable à l'autre enfant, ou il l'a poussé, ou bon, t'étais pas présente pour arrêter, pour faire la bulle de protection, ben alors ce que je ferais, c'est que j'irais voir l'enfant qui a été blessé ou qui s'est fait lancer du sable, et je lui demanderais « Es-tu correct? Il t'a poussé? T'as pas aimé ça, hein? Ma fille, elle voulait pas te faire mal, ou Jérémy voulait pas te faire mal, il a besoin d'espace, puis il aime pas ça quand on est dans sa bulle. » Puis là, ben j'irais voir mon enfant pour reprendre la situation avec lui aussi, tu sais, il est arrivé vite l'ami, hein, dans ton jeu, puis t'avais pas envie, tu voulais être seule. Je comprends que c'est difficile, mais tu peux pas pousser les autres, tu peux pas leur faire mal, tu peux pas te mettre à crier après. Ce que tu peux faire, c'est mettre ta main, puis dire non. Surtout, ce qu'il faut éviter de faire, c'est éviter de critiquer, juger ou réprimander nos enfants, en genre « Ben voyons, pourquoi tu fais ça? Les amis, ils veulent juste être gentils avec toi, puis jouer avec toi. Arrête de toujours rentrer dans la bulle des autres. Ça leur fait peur. Tu vas jamais te faire des amis comme ça. Voyons, tu fais toujours la même chose. Tu pousses les autres quand les autres y arrivent. Ils veulent pas être méchants. » Ou bien, à l'inverse, dire « T'es toujours dans la bulle de ta sœur. Elle haït ça. » Elle te frappe, ça finit toujours en cacahuète. Quand est-ce que tu vas comprendre d'arrêter, de respecter sa bulle? Quand on fait ça, je sais que c'est tentant, là. Je sais que ça nous brûle le bout de la langue de dire ça parce qu'on comprend pas, parce que pour nous, c'est tellement, voyons, on me semble, c'est simple, elle a une bulle, respecte sa bulle. Mais pour les enfants, ils arrivent pas à, je l'ai dit tantôt, à se projeter, à comprendre la vision de l'autre. Puis si un enfant qui a pas de bulle comprend pas que l'autre a une bulle et vice versa. Parce que la différence, c'est ça, c'est très, très, très difficile à comprendre dans la petite enfance. Donc, quand on critique, ça envoie comme message à notre enfant qu'il est peut-être pas normal. Hein? « Je suis pas bon, je suis pas bonne, je suis pas normale, je devrais pas être comme ça. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi ça fait réagir mon parent? » Et surtout, en fait, c'est que ça enseigne pas comment faire les choses autrement. Et c'est ça qui est le point le plus important. Parce que c'est ultra, ultra difficile d'apprendre les habiletés sociales. Même pour nous, les adultes, là, c'est encore parfois, ou même souvent difficile, dépendant pour quel humain, c'est souvent difficile d'interagir, de communiquer, de se comprendre, d'exprimer ses besoins puis ses limites clairement et respectueusement. Et combien, là, il y a de cas de rage au volant par année au Québec? Combien il y a de voisines qui se crient dessus parce qu'il y a un conflit au lieu de se parler puis s'écouter puis de trouver des compromis? Combien il y a de gens qui s'engueulent dans un bar? Bon, on s'entend, il y a de l'alcool impliqué, là, mais pour des niaiseries pas rapport souvent. Il y a combien de personnes qui s'en prennent à la caissière du magasin parce qu'il y a quelque chose qui fait pas leur affaire? C'est difficile les habiletés sociales, c'est difficile les habiletés émotionnelles, même pour un adulte. Surtout quand on n'a pas appris ça enfant. Surtout quand on a appris à réprimer, à se taire, à obéir hein, quand on était enfant. Puis que là, une fois adulte, oh là, là, on peut parler, là, ma voix, elle a une puissance, on lâche, on fait la même chose, en fait, le même pattern que nos parents faisaient. Maintenant, je suis un adulte, maintenant, j'ai le droit de crier, maintenant, mes enfants doivent obéir, maintenant, les autres doivent m'obéir et me respecter. Puis là, la rage s'est accumulée, puis là, ben on peut enfin parler, se protéger, s'affirmer, se défendre. Tout ça pour dire que ça se fera pas tout seul. Les enfants vont pas apprendre les habiletés sociales tout seuls de façon naturelle. Et c'est exactement ce que j'enseigne et que j'explique dans le nouveau programme Ma Tribu Pacifique, qui est une formation, un programme en fait sur l'accompagnement des conflits dans la fratrie, l'accompagnement aussi, la diminution en fait de la rivalité dans la rivalité qui est souvent source de conflits, qui est souvent la base des conflits. Donc les habiletés sociales, comme je l'explique, c'est pas des acquis, c'est pas inné. Contrairement à la marche ou langage, la motricité fine ou la motricité globale, contrairement même à la limite au sommeil ou à la propreté, ça c'est toutes des choses que les enfants vont finir par apprendre naturellement, tu sais, à leur propre rythme, en nous observant, en nous imitant, en expérimentant. Même si on n'intervient aucunement pour stimuler, les enfants vont y arriver seuls un jour ou l'autre. Okay? Même si on leur montre pas comment marcher, ils vont le faire. Si on leur montre pas comment s'asseoir, ils vont le faire. Même si on leur montre pas comment parler, ils vont le faire. Mais pas les habiletés sociales. Les habiletés sociales vont nécessiter beaucoup plus d'accompagnement, d'enseignement, de guidance. Les enfants n'apprennent pas à régler les conflits de façon naturelle. Les enfants y apprennent pas à réguler leurs émotions de façon naturelle si on reste là à attendre. Ils vont utiliser leur corps, ils vont utiliser leur cri longtemps. J'écoutais l'émission, tu connais peut-être, là, Ultimatum, le Queer Edition, qui est sur Netflix. C'est vraiment mon fétiche, les émissions de télé-réalité, j'aime ça, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas, bon, c'est un petit peu, j'en dévoile un petit peu plus sur ma personne aujourd'hui. J'aime vraiment les émissions de télé-réalité, je suis vraiment mordue, puis ça tourne mon cerveau à off, bref, ça me fait du... j'aime ça, ok? J'ai pas besoin de justifier pourquoi, j'aime ça, j'ai le droit. Donc, Ultimatum sur Netflix, le Queer Edition, et j'en revenais pas à quel point... Ce sont des adultes émotionnellement tellement immatures, pas tous, là, il y en a qui quand même m'impressionnaient, mais plusieurs. Puis à quel point leur enfance, les apprentissages qu'ils auront fait ou pas vont impacter leur capacité aujourd'hui à être en relation. Je dis j'en reviens pas, mais en même temps, c'est assez probable, là, puis c'est assez évident, surtout ce que j'observe et ce que je vois de plus en plus, c'est que c'est tellement difficile à réparer puis à rattraper une fois adulte. Parce que moi aussi, je suis adulte, puis moi aussi, je dois réparer ça. Hein. Comme plusieurs parents ici aujourd'hui qui m'écoutent, puis on a des blessures d'enfance, tout le monde en a, puis guess what, tes enfants vont probablement aussi en avoir, mais au moins en leur apprenant l'intelligence émotionnelle, les habiletés sociales, les habiletés affectives, les habiletés émotionnelles, d'accepter, de normaliser les émotions, on a un petit pas d'avance, de régler des conflits, de trouver des compromis, bref. Donc, dans l'émission, pour revenir à l'émission, il y a Aussie qui a 42 ans et qui a un breakdown à un moment donné. Je vous le dis, là, on dirait qu'elle a 4 ans. Puis là, elle fait juste répéter, c'est pas moi, j'ai rien fait. Puis elle crie, puis elle est en colère. Puis c'est comme un enfant, vraiment comme un enfant. Puis comme, I didn't do shit, it's not my fault, I didn't do shit, I didn't do shit, it's not me, I didn't do shit. Puis à ce moment-là, gros breakdown. Ah si, son pattern, puis la difficulté dans ses couples, dans son couple, c'est qu'il n'est pas capable d'avoir aucune confrontation, de recevoir aucune critique, même ce qu'il se veut constructive, il n'est pas capable de recevoir un reproche, il n'est pas capable d'écouter ce que son partenaire a besoin de lui dire concernant ses besoins à elle ou ses limites, sans se braquer, sans se sentir menacée, sans devenir même ultra condescendante. Elle est incapable d'écouter, de considérer le point de vue de l'autre, et c'est triste. Elle a 42 ans, puis elle doit apprendre tout ce qu'un enfant de 8-9 ans devrait savoir. Ben, je dis devrait, mais tu sais, dans un monde idéal, là, ce qu'un enfant devrait savoir quand on accompagne, quand on fait les choses comme il faut. Et là, il y a Mildred, qui, elle, dans un autre couple, excuse ses comportements violents par le fait d'être latina, OK? Elle non plus, elle est incapable d'écouter l'autre, de considérer le point de vue de l'autre. Elle se sent attaquée, puis elle coupe la parole sans cesse pour se victimiser, puis pour attaquer l'autre. Fait qu'avec elle, c'est la loi de celui qui crie le plus fort, celui qui frappe le plus fort. Et je suis tombée en bas de ma chaise quand elle a nommé, comme si rien n'était, qu'elle a été arrêtée par la police pour violence conjugale sur sa conjointe Tiff. Puis là, elle a nommé de même, devant la télévision, comme si rien n'était. Je t'ai lancé un cadre, il y avait de la vitre partout. Je t'ai lancé une barrière pour chien qui était super lourde dans les escaliers. Je t'ai garoché tous tes vêtements pour que tu sacques ton camp. T'as appelé la police, puis là, gna gna gna. Comme si c'était la faute à Tiff, comme si c'était l'autre qui était dans l'erreur. À quel point c'est fucking violent! À quel point sa conjointe a dû se sentir tellement en danger pour appeler la police envers la personne qu'elle a choisi d'unir sa vie. Puis Mildred raconte ça comme si c'était la chose la plus normale au monde, comme si elle avait le droit de faire ça, comme si c'était justifiable. Et ça, c'est tellement épeurant, les amis, là. Tout ça pour dire que les habiletés sociales, c'est une des choses les plus importantes à enseigner parce que ça n'arrivera pas tout seul comme par magie. Accompagner les conflits dans la petite enfance, c'est ultra important. Et souvent, on va avoir un comportement de sauveteur, de sauveteur ou de sauveur. Hein? On va arriver, on va régler les conflits à la place de nos enfants en trouvant une solution. Tiens, toi, viens jouer ici, toi, va jouer là-bas. Bon, OK, arrêtez de vous parler, moi, je vais retourner à mes patates pilées. Ou encore, on a un comportement de policier. Hein? On va prévenir, on va interdire des jeux pour éviter que ça dégénère. On va avoir la mèche très courte, on va avoir aucune tolérance pour les conflits. Vous vous entendez pas pour le film? Parfait, on n'écoutera pas de film. Non, on va pas faire des jeux de bagarre ici, j'ai trop peur que ça dégénère. Aussitôt que le ton commence à monter entre les enfants, c'est « OK, on se sépare chacun dans vos chambres. » Quand il y a un conflit qui éclate, on va tout de suite intervenir en demandant au coupable de s'excuser, puis on va le punir, ou en tout cas, on va le retirer de la situation sans l'avoir entendu, sans avoir essayé de comprendre. Parce que, oui, effectivement, c'est épeurant que la situation dégénère. Oui, c'est épeurant de perdre le contrôle. La peur... Je sais pas si je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui, OK? Mais moi, j'ai appris quelque chose récemment. La peur est un grand canalisateur de colère. Derrière la colère se cache souvent la peur de perdre le contrôle d'une situation. T'essaieras de remarquer la prochaine fois que tu ressens de la colère. Demande-toi, est-ce que je réagis par peur de perdre le contrôle? Mettons, mon enfant, un matin, ça fonctionne pas, il écoute pas les consignes, c'est vraiment... On est en train de perdre le nord, c'est une guerre de se préparer, il faut que je répète les mêmes consignes, il s'oppose à tout, on dirait qu'il fait par exprès pour me provoquer. Je commence à ressentir vraiment beaucoup de l'impatience et de la colère. Est-ce que c'est pas parce que j'ai peur d'avoir perdu le contrôle de la situation, j'ai peur d'arriver en retard, j'ai peur que ça l'expose encore plus? Mon enfant... Mon attente, c'est que mon enfant écoute mes consignes, qu'il s'habille sans faire de chichi. Mais c'est pas ça qui se passe. Puis ça me fait peur parce que la situation devient imprévisible et peut-être hors de mon contrôle. Des fois, juste de voir qu'il y a de la peur qui se cache encore un petit peu en arrière de ça, c'est assez pour prendre un grand respire et changer notre mode d'intervention, de passer de la colère, de l'impatience à... OK, il y a de la peur qui se cache derrière mon émotion et à se mettre en mode plutôt solution, en réfléchissant avec notre tête plutôt qu'avec nos émotions. Bon, OK. Je rentrerai pas plus. Je viens d'ouvrir une boîte de Pandore, j'ai l'impression. Là. Désolée pour ça, mais je m'éloigne tellement du sujet, puis c'est tellement pas là où je veux aller. On parle de la bulle, je répète. Mais c'est juste pour réitérer à quel point, même nous les adultes, on a encore tout à apprendre, puis à quel point c'est important d'avoir les bonnes interventions, de comprendre nos enfants, de comprendre leurs limites, de comprendre leur fonctionnement pour leur enseigner les choses, leur enseigner les habiletés sociales, leur enseigner à s'affirmer adéquatement, à exprimer leurs besoins de la bonne façon, pour leur enseigner le respect, l'écoute active, l'empathie, la compassion, l'introspection, la responsabilisation, les excuses aussi très tôt et de la bonne façon. Et c'est exactement à ça que sert la formation et le programme T'attribue Pacifique. Alors oui, dans l'enseignement de la bulle, de l'espace personnel, ben il faut d'abord être présent, être calme, être en mode prévention pour favoriser les réussites de notre enfant, pour éviter qu'il se place dans une situation plate, qui soit celui qui donne des coups ou qui crie, ou celui qui reçoit un coup, qui reçoit, qui se fait pousser ou qui reçoit un vomi de cris. Donc, c'est important aussi que tu puisses lui servir de modèle. Je l'ai dit tantôt, j'allais en reparler un peu de modeling, mais qu'il puisse te voir dans la situation. OK, ma mère est assise à côté de moi, elle a mis sa main, elle a dit, OK, mon enfant a besoin d'espace, tu voulais lui dire bonjour, valider avec moi, je me sens confiante, je me sens validée, surtout je me sens comprise, je me sens respectée, et maintenant je peux faire la même chose avec mon ami, l'enfant qui arrive, je peux mettre ma main puis dire non. Puis ma mère m'a enseigné ça. Puis à l'inverse, quand on est là en prévention parce qu'on sait que notre enfant, il n'y a pas de bulle, on peut être là pour la ralentir un peu puis dire comme, oh, OK, je vois que tu veux aller voir cette amie-là. Attends un petit peu, regarde, on va aller lui proposer, on va amener un ballon, on va lui proposer, est-ce que tu veux jouer avec moi? Est-ce que tu veux venir jouer au ballon avec moi? Au lieu d'arriver à côté de lui puis de se dire, parce que des fois, les enfants, mettons, ah, moi, je vais jouer à la tag, puis là, il arrive à côté d'un ami puis il pousse puis okay, je joue à la tag, mais je joue. C'est un jeu. C'est pas pour mal faire, c'est un jeu, mais c'est hyper maladroit. Donc, c'est juste de leur montrer comment on le fait, de le modéliser aussi avec eux. Tu sais, tu peux être la personne, l'adulte qui va voir un autre ami puis dire « Allô, comment tu t'appelles? » Tu sais, de faire ce premier pas, puis que ton enfant soit là à côté de toi et il le voit, puis comme « Ah, OK, je peux faire ça. » Mais surtout, notre enfant va pouvoir comprendre « Ma mère me comprend, ma mère, elle veut m'aider. » Et ça, c'est hyper riche pour le lien de confiance. Ensuite, évidemment, quand je parle de modeling, je peux pas passer sous le silence le fait de respecter en retour la bulle de notre enfant, de respecter son espace, de lui demander la permission avant de donner un câlin, avant de donner un bisou, avant de chatouiller, avant d'entrer dans sa chambre. Puis je sais que ça paraît... Tu sais, c'est parce que des fois, on dirait qu'on a la perception que c'est mon enfant, hein, je l'ai accouché, je l'ai créé, fait que c'est mon enfant, je peux lui faire un câlin quand je veux, je peux lui faire un bisou quand je veux. De toute façon, mon enfant, il aime ça, c'est mon enfant, tu sais. Je fais juste lui donner de l'amour, mais... Oui, mais non, c'est pas ton enfant, c'est ton enfant, mais je veux dire, il t'appartient pas, puis ça se peut que ça ne tente pas vraiment d'avoir un câlin, puis de forcer les choses, c'est pas que c'est grave, puis probablement que 98% du temps, il va avoir envie de ça, puis il va l'accepter, puis il va être content, puis en fait, si tu lui demandais, il te dirait tout simplement oui, mais peut-être qu'il y a 2% du temps où est-ce que c'est forcé, puis qu'il n'y a pas le goût, puis que tu es en train de dépasser ses limites. Mais ces 2%-là, il est un petit peu d'affaire de trop, tu sais. Donc, c'est juste une super belle habitude de prendre, de dire « Ah, j'ai vraiment envie d'un câlin. Je peux-tu avoir un câlin? » Ou comme « Ah, je peux-tu avoir un bisou? J'ai vraiment envie de te donner un bisou. Je peux-tu te donner un bisou? J'ai envie de te faire une attaque de bisou. » Puis là, ton enfant dit « Oui. » Puis là, « Ok, je fais une attaque de bisou. » Puis si ton enfant dit « Non, ben c'est correct. Ah, ok. Ben plus tard, peut-être. » Puis de pas le prendre personnel, surtout. Ça n'a rien à voir avec toi si ton enfant refuse des gestes d'affection. C'est normal, probablement que des fois, si tu es en train de faire la vaisselle en écoutant un podcast, probablement que tu n'as pas envie que ton chum ou ta blonde arrive en arrière de toi puis commence à partir une conversation, te fasse un gros câlin puis te dérange. Peut-être que tu as besoin d'être dans ta bulle en ce moment. C'est la même chose pour ton enfant. Alors voilà, prévenir, être calme et régulé, faire vivre, enseigner en fait des façons d'entrer en contact ou des façons d'affirmer ses limites. En modélisant, respecter la bulle de l'autre à l'inverse aussi, respecter la bulle de vos enfants, respecter leur rythme, respecter leur espace personnel, demander la permission avant. Et pour tout ce qui est concernant d'enseigner les bonnes habiletés sociales. Et donc, je t'annonce officiellement que la pré-vente du programme Ma tribu pacifique est débutée. Je te l'annonce en exclusivité et je t'offre aussi un prix exclusif. Donc, c'est un prix qui va être proposé uniquement aux gens qui vont s'être rendus aussi loin dans l'épisode. Non, mais aux gens qui sont abonnés au podcast et qui l'écoutent religieusement et aussi à ceux qui sont abonnés à l'infolettre, hein, parce que des fois, c'est le fun de recevoir des petits cadeaux, des petites choses spéciales. Donc, aujourd'hui, je vous offre la prévente au prix de 99 $. Et là, n'attends pas parce que tu risques d'oublier et dès le 5 mai au matin, la prévente du programme Tribu ne sera plus à 99 $, ça va passer à 109 $ et là, ça va être partagé partout sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y aura plus d'exclusivité pour les abonnés de l'infolettre et les abonnés du podcast de Wikid. Puis, suite à ça, dans le fond, la prévente à 109 $, si jamais tu as manqué ta chance pour la prévente à 99 $, ben au moins c'est à 109 $ après. Puis à partir du 15 mai, là ça sera au prix régulier de 140 $ et ce sera aussi le moment où tu pourras débuter ta formation. Donc je répète dès aujourd'hui, là aujourd'hui on est le 30 avril. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez accéder à la prévente à 99 $ au lieu de 140 $. Suite à ça, le 5 mai, ce sera 109 $. Puis ensuite, le 15 mai, ce sera la sortie officielle du programme à 140 $. Tourlou!